Épilogue. On eût dit que la mort avait fermé le livre, mais sa force à ce coup l'avait laissé survivre. Et ce fut, je présume, à peu près vers ce temps que je fis sa rencontre à la fin du printemps, qu'un premier entretien confondit nos deux âmes, et que du premier jour tous deux nous nous aimâmes. Depuis ce temps-là, maman, jusqu'à ses cheveux blancs, à sa maison de paix, je montais tous les ans. Elle était à mon cœur une source d'eau bonne, qu'on sait dans les rochers, sans la dire à personne, et que dans sa mémoire on réserve avec soin, pour aller à sa soif la chercher au besoin. Chaque fois que ma vie était un peu fanée, qu'un chagrin me pesait dans le cours de l'année, mon instinct, près de lui, me portant aussitôt, dans un coin de mon cœur, mettait tout en dépôt, pour aller dans son sein, le verser à son air, et rapporter la paix qui comblait sa demeure. Où trouver maintenant ma pauvre goutte d'eau, et ce banc sur la route où poser mon fardeau? Et puis, comme il m'aidait dans mes douces études, comme il connaissait bien toutes les habitudes des plantes, des oiseaux, des insectes de Dieu, comme il me disait juste à quelle heure, en quel lieu, sous quel rayon du soir, sur quelle verte pente, ma main tomberait mieux sur l'insecte ou la plante, et comme de l'hysope aux plus superbes fleurs, de tout ce qui végète, il m'enseignait les mœurs. Il n'avait pourtant lui ni grand herbier ni livre. Je recueillais tout mort, mais lui voyait tout vivre. Je savais mieux les noms, les genres, les contours, lui les saveurs, les goûts, les instincts, les amours. Pour lui, chaque herbe était un rayon d'évidence, un signe du grand mot, ou lui la providence. De ce signe divin, par la sagesse écrit, je contemplais la lettre et lui lisait l'esprit. Et prêtant à chaque herbe une claire étincelle, d'âme distincte au sein de l'âme universelle, il la voyait sentir, penser, agir, aimer. Et la nature ainsi qu'il savait animer, avec ses sentiments, ses grâces infinies et ses transitions fondant en harmonie, devenait sous sa langue un poème sans fin, mais toujours émouvant, l'âme est toujours divin. Car le nom de l'auteur, brillant sur chaque page, de jour et de chaleur inondait tout l'ouvrage. Jamais on y lisait avec lui sans bénir et sans sentir aux yeux une larme venir. À présent que j'ai lu dans cette âme si tendre, je reviens sur sa vie et j'ai peine à comprendre comment il a vécu comme un autre séjour, après avoir noyé tant d'âmes dans leur cours. J'aurais cru qu'une mort précoce et volontaire aurait déraciné cet homme de la terre, ou que son front, changeur de mystère et d'ennui, aurait jeté toujours une ombre devant lui. Il n'en fut pas ainsi. J'en bénis Dieu. Sa vie, quoique troublée au fond, ne parut point tarie. Elle continua de couler doucement, sans devancer jamais sa pente d'un moment, et sans rendre son eau plus trouble ou plus amère pour celui qui regarde ou qui s'y désaltère, la douleur qu'elle roule était tombée au fond. Je ne soupçonnais pas même un lit si profond. Nul signe de fatigue ou d'une âme blessée ne trahissait en lui la mort de la pensée. Son front, quoique un peu grave, était toujours serein. On y pouvait rêver la trace d'un chagrin, qu'oblique la douleur laisse dans le sourire, à la compassion plus tendre qu'il respire, au timbre de sa voix ferme dans sa langueur, qui répondait si juste aux fenêtres du cœur. Il se fit de la vie une plus mâle idée. Sa douleur d'un seul trait ne l'avait pas vidée, mais, adorant de Dieu le sévère dessein, il sut la porter pleine et pure dans son sein, et ne se hâtant pas de la répandre toute, sa résignation les pencha goutte à goutte, selon la circonstance et le besoin d'autrui, pour tout vivifier sur terre autour de lui. S'il poursuivit ainsi son chemin jusqu'au terme, c'est qu'en ses saintes mains le bâton était ferme, c'est que sa tendre foi, qui n'était plus qu'espoir, dorait le bus d'avance et le lui faisait voir. À l'heure dont on est sûr de tant de confiance, Satan sans amertume et sans impatience. Dans les chemins connus on marche à petits pas, et quand on sait le terme, on est moins vite là. Et puis les demi-cœurs et les faibles natures meurent du premier coup et des moindres blessures. Mais les âmes que Dieu fit d'un acier plus fort, de l'ardeur du combat vivent jusqu'à la mort. De leur sein déchiré, leur sang en vain ruisselle. Plus il en a coulé, plus il s'en renouvelle. Et souvent leur blessure est la source de pleurs, d'où le baume et l'encens distillent mieux qu'ailleurs. J'ai trouvé, quelquefois, parmi les plus beaux arbres, de ces bons où le bois est dur comme les marbres, de grands chênes blessés, mais où les bûcherons, vaincus, avaient laissé leur hache dans les troncs. Le chêne dans son nœud, le retenant de force, et recouvrant le fer d'un bourrelet d'écorce, grandissait, élevant vers le ciel, dans son cœur, l'instrument de sa mort dont il vivait vainqueur. C'est ainsi que ce juste élevait dans son âme, comme une hache au cœur, ce souvenir de femme. Lorsqu'après cette fin que je n'avais pu voir, j'eus accompli pour lui le funèbre devoir de tout ce qu'il laissait me faisant ma famille. Je voulus emmener Marthe, la pauvre fille. Elle me répondit en me montrant du doigt l'arbuste enraciné dans les fentes du toit. Assez mûr comme lui, ma vie a pris racine. On me laissera bien vieillir sous ses ruines. Qu'est-ce qui soignerait le chien abandonné? On m'y rapportera le pain que j'ai donné. Je sifflai vainement le chien du pauvre prêtre. Il s'émeut à la voix de l'ami de son maître. Mais, flairant le sentier qui menait au cercueil, sans faire un pas plus loin, il me suivit de l'œil. Les oiseaux affranchis revinrent à leur cage, et je n'emportai rien de son cher héritage, que son saint crucifix de buis et de laiton, ses feuillets déchirés, sa Bible et son bâton. Depuis ce jour, au mois où l'on coupe les seigles, je monte tous les ans à la montagne des aigles. Et de mon pauvre ami, le récit à la main, de la grotte en lisant, je refais le chemin. Du drame de ces jours, j'explore le théâtre, et j'y trouve souvent son vieil ami le pâtre, qui, laissant ruminer à l'ombre son troupeau, rêve des deux amants assis sur leur tombeau. Car malgré le mystère et malgré la distance, Jocelyn dort aussi près du corps de Laurence. Lorsque dans la montagne on sut par mes discours le secret divulgué de ces saintes amours, ces pauvres paroissiens, par pitié pour son âme, rapportèrent sa cendre au tombeau de la dame. Et depuis 7 printemps, ils sont couchés tous trois au lieu qu'ils ont aimé et sous la même croix. Souvent, des jours entiers, j'y rêve et j'y médite. Car on aime ce sol qu'une dépouille habite, comme on aime à s'asseoir sur le banc de gazon, ou lorsque le soleil a quitté l'horizon, la brume du couchant que leur rampait des plis vous enveloppe d'ombre et de mélancolie, mais où le rayon mort qui voile sa splendeur laisse longtemps sur l'herbe un reste de tiédeur. Nouvel épilogue. Là, sans doute, la mort avait fermé le livre. Je voulus engager la servante à me suivre. Elle me répondit en me montrant du doigt l'arbuste enraciné dans les fentes du toit. À ces murs, comme lui, ma vie a pris racine. On me laissera bien vieillir sous ces ruines. Qu'est-ce qui soignerait ce seuil abandonné? On m'y rapportera le pain que j'ai donné. Je sifflais vainement le chien du jeune prêtre. Il s'émut à la voix de l'ami de son maître, mais, flairant le sentier qui menait au cercueil, sans faire un pas plus loin, il me suivit de l'œil. Les oiseaux affranchis revinrent à leur cage. Je n'emportai rien de son pauvre héritage, que sur la croix de bois son vieux Christ de laiton, ses feuillets déchirés, sa Bible et son bâton. 6 mois après, au temps où l'on coupe les seigles, le Vésherbe brisé aux montagnes des aigles. Et, de mon pauvre ami, le récit à la main, de la grotte en lisant, je cherchais le chemin. Du drame de ces jours, j'explorais le théâtre, lorsque je rencontrais par hasard le vieux pâtre. Je m'assis près de lui sur l'herbe au bord des flots. Nous causâmes ensemble à peu près en ces mots. Le pâtre. « Que cherchez-vous, monsieur, dans ces déserts ?»« Moi. » »« La place d'une histoire d'amour que ce livre retrace. La grotte où 2 enfants, sous les yeux du Seigneur, eurent autant d'innocence avec tant de bonheur. Montrez-moi le tombeau de la dame inconnue. » Le pâtre. « Quoi, cette histoire aussi jusqu'à vous est venue ?» J'étais le seul ami de l'un des 2 amants, en lui montrant le manuscrit, et j'ai là le récit de tous leurs sentiments. Je voudrais bien savoir si ce livre me nomme. Vous? Oui, moi. Et comment? Oh, je ne suis qu'un pauvre homme, et c'est moi qui fus cause, hélas, sans le savoir, de leur bonheur trop court ou de leur désespoir. Quoi, vous seriez? Oui, c'est moi qui leur montrais la route de la grotte et 2 ans les cachais sous sa voûte. C'est moi qui les nourris, elle et lui, de mon pain. Tenez, voyez là-haut, au-dessus du sapin, à droite, un peu plus bas que cette aiguille blanche. Vous suivrez le ravin comblé par l'avalanche. Par une gorge étroite, après, vous descendrez jusqu'aux rives du lac bordé de petits prés. Et là, près de la grève où son cul écume flotte, vous verrez 3 tombeaux à 2 pas d'une grotte. 3 tombeaux, mais le récit ne parle que de 2, le proscrit et Laurence. Et leur ami près d'eux. Quoi, Jocelyn, ici, vous vous trompez? Lui-même. Il repose en ces lieux auprès de ceux qu'il aime. Instruit, on ne sait trop comment, des grands secrets, quand Martu, tout trahi par des mots indiscrets, ces pauvres paroissiens, par pitié pour son âme, rapportèrent son corps au tombeau de la dame. Et depuis 2 saisons, ils sont couchés tous 3 au lieu qu'ils ont aimé, et sous la même croix. Ah, vers ces 3 tombeaux, berger, menez-moi vite. J'aime à fouler le sol que sa dépouille habite, comme on aime à s'asseoir sur le bloc attiédi où le rayon du jour à peine est refroidi. Allons, le jour encore éclaire la montagne. Le pâtre. N'attendez pas, monsieur, que je vous accompagne. Pour la dernière fois, j'ai foulé ces sommets. Allez-y seul, mes pieds n'y monteront jamais. Avez-vous donc, berger, peur de ce coin de terre? Il se passe, monsieur, là-haut, quelque mystère, que l'homme encore pêcheur profane en regardant. C'est comme un dieu caché dans un buisson ardent. Mais qu'avez-vous vu parler? Oh, des choses étranges, et faites seulement pour les regards des anges. Ne m'ouvrez pas ainsi votre cœur à demi. Je crois en Dieu, berger, et j'étais leur ami. Vous voulez donc, monsieur, que je vous le raconte? Dieu sait si je vous mens, et pourtant j'en ai honte. Vous direz, c'est un rêve, et je ne dormais pas. Un jour, près des tombeaux, j'avais porté mes pas. Pour ces trois chers défunts, j'avais dit à mes prières, par trois, fait trois signes de croix et baisé leurs trois pierres. Puis, les yeux par mes pleurs encore tout obscurcis, non loin au bord du lac, pensif, j'étais assis. Aucun vent n'en frôlait la surface limpide. L'eau profonde y dormait, transparente et sans rides. Et je laissais mes yeux, qui regardaient sans voir, avec distraction flotter sur ce miroir. La cime des glaciers, avec ses neiges blanches, la grotte et ses tombeaux, les chênes et leurs branches, et le dôme serein d'un pan de firmament, tout s'y réfléchissait, clair dans l'éloignement. Soudain, l'onde immobile où mon regard se plonge s'illumine, et je vois, comme l'on voit en songe, deux figures sortir du ciel resplendissant, aux cimes du glacier descendre en s'embrassant, et comme deux oiseaux dont l'aile est éclairée, s'abattre sur la grotte et planer à l'entrée. Ébloui des clartés que l'eau semblait narder, sans haleine, j'osais à peine regarder. Mais l'image dans l'eau s'éclairant à mesure, je reconnus, monsieur, l'une et l'autre figure. Et c'était Jocelyn et Laurence avec lui. Si j'avais pu marcher, je me serais enfui. Mais je restais cloué de terreur à ma place, et mes yeux, malgré moi, les voyaient dans la glace. Vêtus d'air et de jour au lieu de vêtements, se tenant par la main ainsi que deux amants. Sur l'herbe qui frémit, leurs pieds joints s'arrêtèrent, et de là, sans parler, leurs regards se portèrent sur les sites, les eaux, les arbres du beau lieu, comme quand on arrive ou qu'on voit dire adieu. Tour à tour, l'un à l'autre, ils se montraient du geste, du temps de leurs amours, hélas, le peu qui reste. Les plantes, les rochers, les chênes éclaircies, la mousse au bord du lac où l'on s'était assis, la source extravasée, les nids d'hirondelles, et la plume par terre arrachée à leurs ailes. Puis ils se regardaient, souriant, elle et lui, comme quelqu'un qui voit son idée en autrui. Et Laurence, abaissant une main jusqu'aux herbes, des mille fleurs des prés cueillait de grosses gerbes, feuille à feuille au hasard, nuançait leurs couleurs et de la tête aux pieds se revêtait de fleurs, comme une aurore au ciel se revêt de la nue. Et l'amant embaumé s'enivrait de sa vue, et comme pour venir assister à leurs yeux, tout ce qu'ils appelaient ressuscitait pour eux. Et les plantes croissaient à leur seule pensée, et la biche accourait lécher leurs mains baissées, et le chien au soleil se couchait à leurs pieds, et les pigeons enfuis de leur nid, effrayés, par Laurence nommée, revenaient d'un coup d'aile, becqueter son épaule et planer autour d'elle. Et puis je vis venir d'en haut, monter d'en bas, hommes, femmes, enfants, que je ne connus pas, à ces noces du ciel, foule que Dieu convie, venant pour retracer et bénir une vie. Jocelyn, lui du moins, tous les reconnaissaient, car par son nom mortel chacun le bénissait, et deux anges de Dieu sur l'herbe descendirent, sur leur couple béni leurs ailes s'étendirent, et ses ailes formaient comme un grand dôme bleu pour ombrager leur front d'un invisible feu. Et j'entendis les voix d'un million de génies se répandre sur l'onde en vagues d'harmonie. Et pendant qu'ils chantaient, les anges du Seigneur, aux doigts des deux amants rougissant de bonheur, passaient le double anneau des noces éternelles, et sur leur front baissé, ouvrant un peu leurs ailes, laissaient percer du ciel un rayon de l'amour. et mes yeux, foudroyés de ce céleste jour, virent les deux amants ne former qu'un seul être, où l'un ne pouvait plus de l'autre se connaître, et dans un lumineux évanouissement, fondre comme une étoile au jour du firmament. Et comme pour mieux voir, je détournai la tête. Tout le lac frissonna du vol de la tempête, et roula dans ses bruits avec solennité. Laurence, Jocelyn, amour, éternité.